When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Chapitre 7 des Mille et Une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 7. Histoire de Briandor, interrompue tout naturellement. Je m'appelle Briandor. Si vous me voyez le teint un peu roussâtre, et il l'avait en effet, c'est que je suis originaire de la Lune. Vous me paraissez surpris. Il ne faut pas me regarder pour cela comme un homme tombé des nues. Je ne suis pas le premier à qui il soit arrivé de passer d'une planète à l'autre. Mais comment cela se fait-il? Demanda Gracieux. Tout naturellement, reprit Briandor. Savez-vous ce que c'est que la gravitation?
Non, répondit Gracieux. Je n'en sais pas un mot.
C'est quelque chose de fort joli, dit Briandor. Mais il faut trop de temps pour l'expliquer. Qu'il vous suffise de savoir que par le moyen de cette vertu, toutes les têtes pleines de cervelle gravitent vers la Terre, et toutes celles qui n'en ont point, vers la Lune. Vous devez juger par là que ma planète n'est peuplée que de têtes à l'évent. Aussi les habitants sont si légers que leurs pieds ne touchent pas à la Lune. Comme ils sont prévenus du danger qu'ils courent, s'ils ne se maintiennent pas le cerveau libre, ils pratiquent dès la jeunesse quantité de secrets pour cet effet. Ils ont des livres faits exprès pour cela. On n'en fait même plus d'autres. De la lecture de ces livres, ils passent à des conversations de même espèce. Aussi faut-il convenir qu'il ne leur reste pas l'ombre du sens commun. Dégoûté de tout temps de leur façon de faire et de penser, bien loin de m'appliquer dans ma jeunesse à me vider le cerveau, je mis toute mon attention à le remplir. Je n'étais pas fâché de quitter ma patrie que je n'aimais point, et de graviter vers celle-ci où mon goût m'inclinait déjà. Pour cela j'évitai la compagnie des gens de mon âge, et fis mes lectures ordinaires des ouvrages d'un homme qui avait gravité un siècle auparavant. Ma tête, en suivant ce régime, s'emplit bientôt de quantités d'humeurs étrangères, de façon que, devenant plus lourde de jour en jour, je fus entraîné vers la terre avec une violence à laquelle il me fut impossible de résister. Je n'eus que le temps de m'envelopper dans mon manteau par un trait de prudence dont je me suis bon gré par la suite, car j'évitai par ce moyen quantité d'influences cathareuses qui m'assaillirent sur le chemin. La Lune était à son premier quartier quand je la quittai. Elle peut bien s'être renouvelée 36 fois depuis. « Ah, que vous vous ennuyâtes !» dit Gracieux. « Pourquoi ?» reprit Briandor. « Le ciel n'est-il pas un pays curieux ? » D'ailleurs, les profondes études que j'ai faites m'ont rendu sujet à des distractions qui m'épargnent l'ennui de la solitude et même celui des mauvaises compagnies. Ce qui doit vous surprendre, c'est que j'ai passé tout ce temps sans manger. Mais on n'en a aucun besoin dans la moyenne région, soit que l'air y soit peu propre à la digestion ou nourrissant par lui-même. S'il avait plu à la fée, interrompit de nouveau Gracieux, j'aurais voyagé par ce pays-là. Au moins n'aurais-je fait ni bonne ni mauvaise chère, et je n'aurais pas tant trouvé de ronces sur le chemin. Briandor reprit la parole. J'arrivai à la terre en glissant le long d'un arc-en-ciel couleur de rose, aurore et bleu. Je vous avouerai que ce monde-ci me charma au premier coup d'œil. Ce n'est pas que la Lune diffère essentiellement de la terre. On y voit des plaines, des fleuves, des forêts. Mais tout y est défiguré. Ici, on se plaît à conserver les beautés de la nature.
on se plaît là-haut à les détruire. En un mot, mes compatriotes ont fait de leur lune un théâtre digne d'eux. Le lunatique a le dehors aimable, une vivacité qui plaît et qui prévient. Mais pour vivre avec lui, il faut être aussi frivole qu'il l'est lui-même. S'occuper de bagatelles, changer à propos de rien, de goût, de façon de penser, de sentiment, de caractère. Enfin vivre en girouette. Jamais il ne parle deux jours de suite le même langage. Aujourd'hui, c'est un jargon. Demain, il se servira d'un autre. En 2 minutes, il change d'ajustement, de maintien, pour ainsi dire de figure. Vous sortez de le voir, vous le revoyez dans le moment. Et il est étranger pour vous. Mais il ne l'est jamais pour lui-même. Aucune métamorphose ne le gêne. Il se prête à toutes ses révolutions avec une docilité charmante. Il est dans son élément. Il est inconstant. Mais il est fait pour l'être. Les femmes y sont maintenant les seules divinités du pays. Chaque mari, dans sa maison, est un prêtre qui travaille à rendre la déesse favorable aux vœux des étrangers qu'il implore, en l'irritant contre lui-même. Mais un prêtre désintéressé, qui ne demande jamais rien pour lui. Au demeurant, il est chargé de l'entretien de l'idole, car il faut la parer, le peuple se prend par les yeux. Il serait assez difficile de se faire une idée d'une femme lunatique. Elle ne ressemble en rien aux femmes de ce pays. Ici, quand on a quelques traits, du naturel, de la pudeur, on a tout. Là-haut, tout cela ne mène à rien. Elles se donnent des agréments qu'elles inventent, et qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes, et la nature n'est qu'une sotte. Elles sont vives, enjouées, hardies, même un peu folles, et surtout coquettes. Mais si amusantes, qu'elles font excuser tout leur travers. Je les idolâtre encore. Non que les femmes de ce monde-ci me soient indifférentes, mais si je me trouvais jamais entre les unes et les autres, je les aimerais toutes pour m'épargner l'embarras du choix. Le tour ne serait pas maladroit, interrompit Gracieux. Avec tant d'agréments, reprit Briandor, ces dames n'inspirent point d'amour. Elles ne font naître que du goût, et ce sentiment les contente. Elles évitent tout ce qui contraindrait leur humeur volage. Il leur faut des amusements et non des passions. Le caprice fait chez elles ce que le destin fait ailleurs. Ce qu'ils prononcent est irrévocable. Mais j'aurais beau parler sur leur compte, je n'épuiserai pas la matière. Je crains même qu'en en parlant trop, je ne me fasse soupçonner d'en avoir été mal reçu. Il est vrai que le caprice ne leur a pas parlé pour moi. Mais comme on ne m'a pas fait des traitements plus doux sur la terre, j'ai toujours pensé que cela venait plus de ma faute que de la leur. « Ah !» dit Gracieux en l'interrompant. « Seigneur, vous cherchez... »« Non, je ne cherche pas de compliments, » reprit le chevalier lunatique. « Je vous avouerai même que je me suis étonné 20 fois de ce qu'étant fait sur un certain modèle, ne manquant ni d'esprit ni de courage, j'ai toujours été le plus malheureux de tous les galants du monde. » Vous vous en étonnerez vous-même en entendant mon histoire. Mon premier soin, dès que je me vis habitant de ce monde, fut de choisir ma profession. Comme je ne hais point la gloire, et que je crains peu la fatigue, j'embrassai la chevalerie errante, qui me convenait à merveille. Le goût des aventures me détermina encore, car qu'est-ce qu'une vie sans aventure? C'est un tissu d'ennui. D'ailleurs, j'avais trop bien débuté pour rester en si beau chemin. Je passe sous silence ces combats journaliers, ces succès malheureux ou favorables auxquels un homme de notre état est sujet. Je viens tout de suite à des faits de plus d'importance. Comme je traversais le royaume de Congo, je fus tenté de voir la princesse Uhukeke, qui en était souveraine. J'arrivai dans la capitale le jour d'un tournoi. J'entrai en lice, et j'en eus tout l'honneur. C'était m'annoncer par un début brillant. Je fus recevoir à l'amphithéâtre le prix des mains de la princesse. Je la vis, je l'aimai. Il était impossible de faire autrement, car elle était charmante. Je ne pourrais en faire que de faibles portraits. L'avantage que j'avais remporté me donna lieu de m'introduire à sa cour. Je crus d'abord apercevoir dans ses regards quelque chose de favorable pour moi. Mais je ne conservai pas longtemps ce faible avantage. Ouhoukéké, d'ailleurs toute charmante, avait les plus vilaines mains du monde et la fureur de les montrer. Mais l'empressement de la cour à les louer sans cesse était ce qui m'étonnait le plus. Moi, je gardais là-dessus un silence froid. J'eusse cru insulter la princesse en louant quelque chose d'aussi laid, lorsqu'il y avait d'ailleurs un si beau champ pour admirer. Mon silence fut remarqué par mes rivaux. Ils l'interprétèrent, et je perdis la faveur. Mais le mal n'eût pas été sans remède si mes concurrents n'eussent pris le parti d'aller jusqu'à la Chine, soutenir dans un tournoi, sous le nom de chevalier des belles mains, qu'Ouhoukéké avait les plus belles mains du monde. À ce trait, ne pouvant rester à la cour, ni me mêler parmi ces insensés, je tournai mes vues d'un autre côté. « Oh, pour le coup, dit Gracieux, je ne vous comprends pas. Que vous eût-il coûté d'aller jouter à la Chine? Vous avez tant de fois jouté à propos de rien. Il s'agissait pour vous d'un bonheur. Bonheur ou non, reprit Briandor, cela m'importe peu. On m'offrirait toutes les princesses de la terre. L'univers s'armerait contre moi, que je dirais toujours qu'Ouhoukéké a de vilaines mains. À plus forte raison, ne jouterais-je pas pour soutenir le contraire. Je ne puis pas prendre sur moi de défendre les mauvaises causes. Après cette aventure, poursuivit Briandor, croyant être devenu sage à mes dépens, je résolus, puisqu'enfin il fallait flatter le faible des dames pour leur plaire, de donner dans ce travers. Comme je voyageais lentement, j'arrivai à la Chine lorsqu'il y avait déjà longtemps que les amants d'Ouhoukéké en étaient partis. Skobeluskou, fille du roi de la Chine, n'était pas à beaucoup près si belle qu'Ouhoukéké, mais elle était plus piquante. Il me semble néanmoins, dit Gracieux, dont le sort était de faire des remarques, que l'héritière de Congo devait être plus brune. Eh bien, reprit Briandor, l'autre était plus piquante, je vous le dis, je m'y connais. J'avais ouï dire qu'entre autres fantaisies, car Skobeluskou en avait quelques-unes, elle avait le faible d'aimer les jambes bien faites. Je l'ai naturellement très fine, mais pour flatter la princesse dans son goût, je crus devoir y ajouter quelques agréments d'emprunt. D'abord, ma ruse eut tout l'effet possible. Skobeluskou trouva ma jambe faite à ravir, et sur ce passeport, me permit de lui faire assidûment ma cour. Je ne sais si la jalousie éclaira mes rivaux, ou si maladroitement je m'avisai de placer un jour le gras de ma jambe de travers, mais le bruit de ma supercherie se répandit, et l'on forma le dessein de me convaincre. On indiqua des joutes pour amuser la princesse. J'y vins parer, à mon avantage, et me placer à côté de mes concurrents. Au signal, je voulus partir avec les autres, mais au premier effort que je fis, je m'aperçus que ma jambe était accrochée à la barrière par un petit crampon de fer. J'eus beau caracoler, il fallut y laisser mes dépouilles. Quelques pages m'avaient joué ce tour. Bientôt, on abandonna les joutes pour venir rire de mon aventure. Mais le plaisir coûta cher aux rieurs. Car à peine fus-je en liberté, que saisissant ma lance à deux mains, ma bride entre mes dents, je gagnai la plaine en frappant à droite et à gauche. Je ne sais où je pris tant de force. C'est la fureur qui m'animait. Mais il faut que dans cette aventure, j'ai meurtri plus de 2000 Chinois. Comme Briandor en était à cet endroit de ses aventures, il s'aperçut que Gracieux dormait. Il attendit quelque temps. Enfin, voyant qu'il ne s'éveillait pas, n'osant par politesse le tirer de son sommeil, ne voulant pas compter à vide, il prit le parti de chercher à s'endormir de son côté. L'abbé, en parlant ainsi, s'aperçut que les dames étaient un peu plus qu'assoupies, et regardant la résolution de Briandor comme un conseil pour lui, il sortit. Il ne tiendra qu'au lecteur de s'endormir aussi, si la vie lui semble bon. Fin du chapitre 7. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 8 des Mille et une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises. Contes à dormir debout.
par Jacques Cazotte. Chapitre 8. Gracieux donne dans le poteau noir. Suite de l'histoire de Briandor. Ce que devint ce chevalier. Nos chevaliers dormaient déjà depuis longtemps, lorsque Gracieux fut réveillé par un horrible coup qu'on lui déchargea sur la tête. Il l'eût rendu, s'il eût trouvé à qui le rendre, car il n'était pas endurant. Mais n'apercevant rien, parce qu'il faisait très obscur, et qu'en effet, il n'y avait personne, « Ah, si jamais je te rencontre !» s'écria-t-il. « Qui, seigneur ?» lui demanda Briandor. « Celui qui vient de me blesser, » répondit Gracieux, en se bandant la tête avec son écharpe. « Êtes-vous blessé ?» répliqua le chevalier lunatique. « Oui, à la tête, » repartit Gracieux. « Mais nous sommes dans une caverne, » dit Briandor. « Ne serait-ce pas que vous vous seriez cassé la tête à l'entrée, qui sans doute est trop basse, tandis qu'il ne m'est rien arrivé à moi qui suis plus petit que vous ?» Gracieux vit bien qu'il pouvait en être quelque chose. Il laissa tomber ce propos et fit des excuses à Briandor sur ce qu'il s'était endormi, le priant de reprendre le fil de son histoire. Le chevalier lunatique, qui ne voulait qu'être entendu, poursuivit son récit dans ces termes. Au sortir de la Chine, la cour du Mogol me sembla mériter mon attention. J'y fus, et pendant longtemps j'y vécus ignoré, n'ayant pas d'occasion de faire des actions d'éclat. Je crois que je ne fusse jamais parvenu à me faire connaître sans le prodigieux talent que j'ai pour deviner les énigmes, même les plus obscures. Il est vrai que je n'en manque pas une. L'énigme était l'amusement favori des trois princesses héritières du trône du Mogol. Elles en faisaient continuellement. Elles les proposaient à leur cour, avec un prix pour les heureux. Je me signalai par des succès si suivis dans ce genre, que bientôt, je m'attirai quelques distinctions. Dès que je me vis sur un certain pied à la cour, je cherchai à me faire des intrigues. Je parlai d'amour à Mina, la plus belle des trois princesses, quoique je fusse sûr d'avoir un rival préféré. Mais c'était un jeune homme médiocre pour l'esprit, pour le courage, et qui n'avait que de la beauté. Dès que je trouvai occasion d'entretenir la princesse, aux détails que je lui fis de mes sentiments, je mêlai quelques discours à mon avantage, quelques épigrammes contre mon rival, pour avancer plus promptement mes affaires en le détruisant auprès d'elle. Le premier jour, la princesse me donna des énigmes à expliquer au lieu de m'entendre. Le second jour, il lui prit des vapeurs, et le troisième, on me refusa l'entrée de son appartement. Dans le dépit qui m'animait, je fus offrir mon cœur à la princesse Belbé, sa cadette, qui, sans être aussi touchante, avait ses charmes. Elle me reçut comme une belle reçoit l'amant d'un autre. Il y a, il est vrai, des distinctions pour les heureux et pour ceux qui ne le sont pas. « Vous m'aimez, seigneur, » me dit-elle. « Auriez-vous donc oublié les charmes de Mina ? J'entrevois la cause de votre changement. Vous m'apportez des hommages qu'on refuse ailleurs. » Je crus devoir, dans cette occasion, lui exagérer la beauté de Mina, afin d'excuser mon penchant pour cette belle. C'était même une façon de consoler Belbé, d'être mon pis-aller au refus de la plus charmante princesse du monde. Ce que vous auriez peine à croire, seigneur, et ce qui n'arriva jamais qu'à moi, la princesse me tourna le dos et ne m'a jamais regardé depuis. Cette disgrâce me fit quitter le Mogol plus tôt que je n'eusse voulu. Il ne tenait qu'à moi de me déclarer amant de la troisième princesse et de briguer un nouveau refus. Mais, ne trouvant rien d'assez piquant dans cette aventure, je résolus d'aller en Perse. Je m'arrêtai en passant à la cour de Kandahar. La reine de ces contrées, quoiqu'entre deux âges, conservait encore des agréments. Je voulus essayer si mon étoile m'épargnerait auprès d'elle. Mes commencements ne furent pas malheureux. Je fus bientôt, entre les courtisans, celui qu'elle honora le plus de sa confiance. J'étais de tous ses plaisirs. Un jour, je me hasardai à lui parler tendresse. J'essuyai des caprices, des hauteurs, et même des dédains. Mais comme il faut que tout finisse, enfin, dans un moment où nous étions seuls, et où je la pressais plus qu'à l'ordinaire, elle m'avoua que je ne lui étais pas indifférent. À ce coup, je me crus désenchanté.
car j'ai toujours cru l'être sur le chapitre des bonnes fortunes. Je me jetai à ses genoux. On m'y surprit presque. Elle en rougit. Je me relevai, forcé de contraindre mes transports. Mais je fis paraître tant de gaieté le reste de la journée qu'un mauvais plaisant, qui se douta du fait, fit un conte anonyme. Il était vif. La reine ne me l'a jamais pardonné. Elle prétendut que j'avais manqué de discrétion, et que, qui ne savait pas taire les petites faveurs, n'était pas digne des grandes. Gracieux s'endormit pour la seconde fois en cet endroit du récit de Briandor. Le chevalier lunatique se promit bien de s'adresser mieux à l'avenir pour conter ses aventures. Je crois que vous n'avez pas lieu d'être sensible à son dépit. En effet, mesdames, qui perdez-vous? C'était un fou d'une espèce mélancolique qui n'a pas dû vous amuser. Tandis que Gracieux dormait, la fée Trois Bosses se trouva sur son chemin. Elle courait le monde sur certaines inquiétudes dont par la suite je vous débrouillerai le motif. Si elle avait reconnu le voyageur, c'était fait de lui. Imagineriez-vous qu'il dût son salut à cette écharpe dont il s'était enveloppé la tête et qui le rendit méconnaissable aux yeux de son ennemi? Ainsi, pour éviter la mort, il fallait nécessairement qu'on lui fît un conte, qu'il s'endormît, qu'il se cassât la tête, qu'il l'enveloppât, pour ne pas remonter plus haut, car cela nous mènerait insensiblement jusqu'au coup de poing. Quel enchaînement! Mais un autre coup du bonheur. Il fallait qu'il se rendormît de nouveau. Sans cela, il eût reconnu la fée, se fût troublé, et son trouble l'aurait trahi. Non, il y a là-dedans des arrangements admirables. Je ne sais point pour cette fois si Briandor s'endormit. Il faudrait qu'il eût eu le sommeil à commande. Pour ce qui est de Gracieux, il ne dormit pas longtemps, et ce second réveil fut bien moins disgracieux que le premier. Infatigable s'arrêta, et hennit de toutes ses forces. Le chevalier ouvrit les yeux, et vit qu'il était à la porte d'un palais superbe. Il conçut dans le moment que, puisque son cheval s'arrêtait, il était nécessaire qu'il entrât dans ce palais. Il ôta son écharpe de dessus sa tête, pour avoir l'air plus séant, et descendant du coursier, il se jeta précipitamment dans le vestibule. Le chevalier lunatique voulut le suivre, mais les deux battants de la porte se fermèrent à son nez. Dans cette extrémité, forcé de revenir sur ses pas, il chercha le cheval fée qui était disparu. Enfin, il fut contraint de s'en retourner tristement à pied. Il n'y a pas de mal à cela. Il serait à souhaiter qu'il en arrivât autant à ses curieux, ces ennuyeux qu'on porte sur les épaules, qui s'acharnent, qui poursuivraient leur proie jusqu'au bout du monde, gens qui se livrent à tout, toujours disposés à s'informer, à blâmer à tort et à travers, à parler d'eux continuellement, soit en bien, soit en mal, ce qui est égal, car c'est toujours la vanité qui les fait parler. Fin du chapitre 8, enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.